quelles circonstances ces civils sont morts, monsieur le ministre ?
Les premières informations qui nous parviennent font état de règlements violents à Divirail, donc dans des maisons, des militants d'un parti qui sont allés brûler des maisons d'un autre militant et qui auraient entraîné la mort de cinq enfants, cinq nourrissons qui étaient dans ces maisons, et un autre à Kindia. Et un autre également à Ratoma, dans la commune de Ratoma, lors d'affrontements avec les forces de l'ordre.
Où était cette force de sécurité, monsieur le ministre ?
Elle était présente lorsque elle a été appelée. Bien entendu, elle intervient lorsque les incidents se produisent. Elle est présente à certains endroits sensibles qui nécessitent une présence préventive. Et à certains endroits, elle ne peut intervenir que lorsque, malheureusement, des incidents surviennent pour éviter qu'ils ne dégénèrent et qu'ils ne soient beaucoup plus graves. Donc la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette force n'était pas présente.
Alors Ibrahim Baldé, vous aviez un réseau d'une quarantaine de reporters déployés dans tout le pays pour faire le point sur ces élections. Comment se sont déroulées ces élections et qu'est-ce qui a attiré votre attention ?
Bon, dans l'ensemble, selon ce que nous avons reçu de nos reporters envoyés sur le terrain, tout s'est passé très bien le jour de l'élection, mais il faut déplorer que... Je dirais que... Nous avons déployé des reporters un peu partout en Guinée, à travers les quatre coins du pays. De nos reporters sur le terrain, tout s'est bien passé dans le calme, malgré que, disons, il y a eu quelques cas d'intimidation un peu partout, disons, à Mandiana et à Kourassa, on nous a fait cas. Mais pour ce qui concerne la majorité des reportages que nous avons reçus, tout s'est bien passé. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, peut-être m'a surpris même, c'est la participation des Guinéens le jour des élections, parce que le taux qui nous a été reporté, en tout cas, varié de 40 à 50%, ce qui est une nouveauté. Et aussi, nous pensons, en tout cas, il y a eu, si vous voulez, à mon entendement, un ras-le-bol de la population, des citoyens face aux politiques.
Justement,
donc les gens sont fatigués de la politique politicienne.
Oui, justement. Edouard Abba, les Guinéens vont-ils accepter les résultats malgré les accusations de fraude lancées par l'opposition ?
Je pense que les Guinéens sont acquittés de leur devoir, au moins ceux qui ont voté. Maintenant, il reste à savoir si la CENI va réussir à convaincre la population pour dire effectivement vos voix ont été calculées comme elles ont été votées. Donc c'est un peu là la question qui se pose. L'opposition crie à la fraude, le gouvernement aussi, disons la mouvance présidentielle, crie à la fraude dans certains endroits. Donc, il revient à la CENI de réussir à convaincre les acteurs pour dire, effectivement, nous avons fait un travail clair, un travail transparent, voici les résultats. Et, disons, c'est là le point clé de comment la CENI va gérer cette étape qui va déterminer la suite, la réception ou non-réception de ces résultats.
Kamissa Camara, revenons sur cette liste de candidats exceptionnels, près de 30 000 candidats. Quelle pourrait être la grosse surprise de ces élections ?
Alors, je ne sais pas si il faudrait parler de surprise. Je pense que il faudrait simplement garder à l'esprit que les élections locales ou municipales sont des élections de proximité, ce qui fait que la population est généralement très intéressée à aller voter pour des personnes qu'elle connaisse personnellement. Et ces personnes-là, surtout en Guinée, sont en charge de la mise en œuvre de la politique locale de développement. Encore une fois, ce sont des personnes que les électeurs eux-mêmes connaissent. Donc, ils veulent s'assurer effectivement que les personnes pour lesquelles ils votent soient notamment élues et soient en charge de mettre en œuvre ou d'assurer leurs intérêts au niveau local. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de grandes surprises. Mais je serais quand même très intéressée de savoir comment est-ce que la CENI, qui est l'organe de gestion des élections, gérera toutes les allégations de fraude autour de ces élections locales.
Madame Dossou Koundé, on a vu l'émergence de listes indépendantes. Aminata Touré en fait partie. C'est la fille du premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré. Pouvez-vous nous faire un commentaire à ce sujet ?
Mais avant d'aborder le sujet, j'adresse toutes mes condoléances aux Guinéens et ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Ce n'est pas une surprise, madame, du fait que vous venez de dire que c'est la fille du premier président de la République de Guinée. Ça me rappelle un peu Benazir Bhutto au Pakistan ou bien Bachelet, comment ça s'appelle. Voilà. Elle mérite. C'est une grande femme battante, une grande entrepreneuse et qui a été toujours avec la communauté. Elle était avec le peuple. Je la félicite. Au mieux, c'est une façon de dire au gouvernement actuel que nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués. Et pour moi, cette élection n'a prouvé que ça, le ras-le-bol du bas peuple vis-à-vis de ses gouvernants.
C'est ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez vos réactions sur les propos de Madame Condé?
Pas spécifiquement. Il est évident que... Bon, j'ai quand même analysé, vu la faiblesse du taux de participation relative, hein, bien entendu, faiblesse relative, j'ai pris le soin de consulter les résultats de taux de participation dans d'autres pays sur des élections communales, et notamment celle de Guinée en 2005. Je crois que les taux sont sensiblement les mêmes. Je crois qu'effectivement, dans la difficulté d'avoir à désigner nommément pour qui on vote, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à la difficulté de faire comprendre aux citoyens, par exemple, que ce n'est pas parce qu'un parti est arrivé en tête en termes de suffrage que c'est forcément un de ses membres qui sera élu maire, puisqu'il y a des alliances qui peuvent se faire et c'est le nombre de conseillers qui est dit de maire. Donc il y a quand même un mécanisme qui n'est pas forcément perçu par les populations et qui fait que la participation a été faible. Ensuite, il est évident que la flambée des candidatures des listes indépendantes et le succès relatif de certaines d'entre elles prouvent effectivement que la population a peut-être moins confiance en la classe politique actuelle et qu'il faut que chacun se remette en cause pour voir comment mieux adresser les problèmes des populations. Donc c'est des leçons à tirer, mais je crois qu'il y a encore un peu tôt pour les tirer. Les derniers résultats ne sont pas encore en cours et ne sont pas encore centralisés et les analyses doivent se faire à froid. Je crois que c'est un peu tôt, mais il est évident qu'il y a quand même un désenchantement par rapport à la classe politique. Il faut être capable de le reconnaître et de tirer les conséquences. Et ensuite, il y a peut-être une appréciation un peu approximative du mécanisme et de l'intérêt et des enjeux liés à ces élections par les électeurs.
Madame Dossou Condé, vous avez dit que vous êtes fatiguée, mais et quel est votre point de vue sur l'opposition guinéenne?
Mais à nos jours, moi, je n'accuse pas réellement l'opposition guinéenne dans cette élection. Vous serez déçus. Parce que l'implication de l'administration, de tous ces fonctionnaires qui ont fermé leur bureau pour aller faire campagne au nom du président, c'est des méthodes que nous avions combattues dans l'opposition en face du général Lansana Conté. Et qu'on se mette à répéter les mêmes choses, c'est vraiment une déception. Et malheureusement, ils n'ont même pas été. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans un village où on envoie 160 000 francs à tout un village. Quand ils ont réussi, ils sembleraient 2 milliards chacun de tous pour aller faire campagne. Le ras-le-bol est parti de là. Moi, cette fois-ci, je n'accuserai pas l'opposition. J'accuse la mouvance.
Donc, coup de projecteur.
Avec leur implication.
Coup de projecteur, justement, sur la population suite aux élections locales. Quelles sont leurs réactions à Conakry? Notre correspondant Zakaria Camara a recueilli les impressions de la population.
Pour moi, cette année-là, il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas voté. Parce que bon, tu votes pas, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont faire.
L'élection communale de nos élus locaux a une importance pour nous. Mais dans le cadre de ces élections, je souhaiterais qu'on préserve la paix, surtout la paix. Et qu'après les élections, le résultat qui s'étoit est qu'il soit accepté par tout le monde.
Ben, les gens sont déçus. Il y a trop de mensonges, quoi. C'est pourquoi les Guinéens n'ont pas été mobilisés cette fois-ci pour aller au vote.
Ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui est plus mieux pour ne pas créer des sangas, la perte des vies humaines. Ils n'ont qu'à essayer de voir l'union pour qu'on puisse asseoir le maire très bien sans avoir des problèmes, quoi, ou bien des difficultés comme ça.
La CENI ne veut pas donner les résultats, les vrais résultats, je veux dire l'expression du peuple, c'est ça le vrai problème. Donc je conseille à la CENI de se prononcer le plus vite possible, donner les vrais résultats qui sont sortis des urnes.
Ibrahim Baldé, comment expliquer le peu de mobilisation des Guinéens, comme on vient de le voir sur ces réactions?
Ah, je crois que Mme Dussou Kondé vient de le rappeler aussi. C'est un ras-le-bol des citoyens guinéens face aux politiques. Et je dirais même, je me félicite du fait que le ministre, son excellence, vienne tout de suite de reconnaître que ce faible taux est dû à un ras-le-bol. Alors, nous pensons que le fait que le gouvernement a excellé dans les promesses non tenues en est une première cause. Mais aussi, il faut reconnaître que l'opposition est divisé en son sein. Il y a des querelles intestines. Vous verrez que pendant ces élections, il n'y a pas eu de coalition. Et on verra les jours à venir. Ce sera très difficile entre eux parce que chaque fois que aussi il y a eu question de poste ou question d'argent, l'opposition a excellé dans les querelles. Donc, des deux côtés, les populations sont fâchées, sont révoltées. Elles ont préféré rester à la maison que de sortir voter. C'est ce que je pense.
Est-ce un avertissement pour les partis politiques, Kamissa Camara?
Sans doute, je sais que depuis 2010, depuis les élections présidentielles de 2010, il y a eu des centaines de manifestations de l'opposition et l'opposition qui tire sur le parti au pouvoir et le parti au pouvoir qui tire sur l'opposition, des tiraillements sans cesse. Les élections législatives, on a vu le même scénario avec l'opposition qui crie à la fraude et le parti au pouvoir qui se tiraille. Donc en fait, ce ras-le-bol que les différents... on a même envie de dire que les Guinéens ont bien raison d'avoir ras-le-bol. C'est vrai que la scène politique a été quand même mouvementée, mais mouvementée pas dans le bon sens. On a eu des manifestations, des violences, des morts. Et à chaque scrutin, on fait face au même scénario. Donc, la grande question maintenant, c'est de savoir est-ce que les politiques guinéens sont à même de résoudre ou de répondre aux besoins de leurs citoyens. Est-ce qu'ils ont adopté ou ils adoptent un comportement qui est responsable et qui permet aux citoyens guinéens de leur faire confiance? Je n'en suis pas très sûre.
Donc nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Deux commentaires Facebook. Tierno Ibrahim Diallo de l'Abbé en Guinée. Tout le monde sait qu'il y a eu des fraudes. Personnellement, je suis pour les dénonciations, mais je suis totalement opposée aux manifestations, car ici en Guinée, qui dit manifestation dit également répression. Il va y avoir des morts et des blessés, des familles seront endeuillées et ça n'aboutit à rien. Willy Luambo Nondji de Lumumbashi en RDC. Les partis politiques et la commission électorale doivent sensibiliser le peuple pour atteindre un taux de participation considérable pour que la population sanctionne ceux qui ont mal géré le pays. On marque à présent une courte pause. Washington Forum revient avec un décryptage de la situation politique, économique et sociale en Guinée.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine.
De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres,
nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique, une chaîne partenaire.
Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Washington Forum. Raissa Girondin, en votre compagnie, nous retrouvons nos invités en direct de Conakry en Guinée. Au téléphone, le ministre porte-parole du gouvernement Albert Damantan Camara. Du studio de la VOA à New York, Sano Dossou Kondé, activiste guinéenne. Également à New York, Ibrahim Baldé, administrateur de Média d'Afrique et animateur radio. Via Skype, Kamissa Camara, analyste politique. Et avec moi sur ce plateau, Edouard Abba, un analyste guinéen qui est aussi un élu local dans l'état du Maryland. Monsieur le ministre, la Guinée est un pays qui revient de très loin. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte les élections locales ont dû être reportées ?
Écoutez, je vous ai entendu en début de reportage dire que c'était pour des problèmes de financement, c'était également Ebola, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il y a également des réformes législatives qu'il a fallu mener, parce que il y avait une très forte contradiction entre ce que disait la Constitution, un certain nombre de textes relatifs à la gestion des collectivités locales et le code électoral lui-même, et à la faveur d'un certain nombre de rencontres et de dialogues entre l'opposition, la mouvance et les différents acteurs concernés, des actions ont été entreprises pour modifier ces textes, les adapter à la réalité du terrain, même si parfois nous n'avons pas rencontré l'assentiment de tous les acteurs politiques. J'ai par exemple, l'UFM n'est pas d'accord.
Pourquoi ?
Sur une certaine modification de ce code électoral. Bon, pour des raisons qui leur sont propres, je ne saurais les rappeler ici, mais voilà, ça n'a pas fait l'unanimité, mais la majorité a opté pour une modification d'un certain nombre de textes. Donc tout ceci a concouru à retarder la tenue de ces élections locales.
Edo Rabah, un commentaire à ce sujet ?
Bon, je dirais que l'argument selon lequel les textes de loi n'étaient pas, disons, adaptés à la réalité, c'est vrai, on peut en débattre, mais il est vrai que depuis 2006, nous vivons sans élections locales à la base. Donc on part d'accord politique à un accord politique. Il y a eu les élections, disons, des députés sur la base de ces mêmes textes qui ont été révisés en 2010. On a vu l'élection du président lui-même sur la base de ce même code électoral. Donc revenir nous dire que pour les élus locaux, il fallait forcément revoir ces tests, je pense que c'est un peu pousser l'enveloppe à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il y a besoin, et même l'accord qui a été retenu, je pense, se prête à interprétation, parce que nous avons perdu des acquis démocratiques avec la révision ou bien l'accord qu'ils ont atteint en 2016, notamment ne plus élire les chefs des quartiers ou des districts par la population locale, mais des gens qui vont être nommés par les partis politiques en fonction des pourcentages obtenus au niveau des communes urbaines. Ce qui va en quelque sorte, disons, politiser tout le système.
Il y a eu la crise Ebola qui a frappé le pays. Il y a eu aussi l'économie du pays qui a été bouleversée par le secteur minier. Kamissa Camara, comment se porte aujourd'hui l'économie guinéenne ?
Elle est en plein boom. L'économie a un taux de croissance de plus de 6% par an, ce qui est énorme. Vous pouvez d'ailleurs consulter les différents chiffres sur les sites du FMI, de la Banque mondiale, etc. Mais la Guinée est riche en minerais, et notamment les exportations de bauxite et d'or permettent à l'État de se remplir les poches. Maintenant, est-ce que cette croissance permet à la population de se faire ressentir au niveau de la population, ça c'est une autre question. Mais l'économie guinéenne se porte très bien, elle est en plein boom.
Donc vous avez dit riche, mais selon la Banque mondiale, 55% de la population guinéenne vit encore au-dessous du seuil de pauvreté. C'est un vrai challenge pour les décideurs politiques, Edo Rabah ?
Et tout à fait. Je pense que le pays est riche, le pays est doté de tout pour que les Guinéens puissent s'épanouir. Mais il y a cette vision du gouvernement qui manque. Donc il faut un gouvernement qui puisse venir avec des plans de développement de la société guinéenne, avec que tous les Guinéens puissent bénéficier de cette richesse du sol et du sous-sol guinéen. On est riche, mais comment faire pour que cette richesse soit répartie par tous les Guinéens et que tous les Guinéens en bénéficient? Donc c'est la grande question qui attend tous les gouvernements guinéens.
Madame Sano Dossou Kondé, comment le gouvernement peut-il rendre la croissance du pays plus inclusive?
Mais, ma chérie, c'est comme je reviens à mon frère Haba. C'est en Guinée que l'actuel gouvernement s'enrichit sous la barbe de tout le monde. Vous verrez un ministre. C'est un refus quand même et une crise d'autorité totale en Guinée. Vous verrez des ministres qui ont dit, c'est-à-dire la richesse est dilapidée au détriment de la majorité. Et c'est ce qui a amené cette fois-ci à favoriser les indépendantistes, pour dire au gouvernement guinéen que la corruption, le vol à ciel ouvert et tout ce que vous voyez là, les gens en ont marre.
Donc c'est difficile. La pauvreté de la majorité est organisée par le gouvernement actuel du professeur Alpha Condé et c'est visible.
Mais vous avez été militante hein, pour le parti au pouvoir, le RPG. Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes écartée après du leader actuel?
Bien sûr, parce que nous avions trahi tout ce qu'on a reproché aux autres. Je ne ferai jamais ce que j'ai reproché aux autres. C'est ça la vérité. Et malheureusement, tous ces gens que nous avions critiqués hier avec le régime de faim sont avec M. Alpha Condé et sont les décideurs du gouvernement du professeur Alpha Condé. Alors, ça, c'est inacceptable.
Monsieur
parce
le ministre.
Qu'il y a eu plein de morts pendant notre combat.
Monsieur le
ministre.
Il y a
eu plein de morts.
Et
ceux qui nous torturaient à l'époque sont morts avec Alpha Condé. Le monsieur Brahma Condé était un grand acteur, les Tatavieux, les Malik Sankon là. Ne citer que ceux-là. Malik Sanko avait toute une équipe de troubadours au nom de Kozalak et Mozalak contre les militants du RPG à l'époque. Les Brahma Condé torturaient nos militants à l'époque.
Monsieur le ministre, que ce soit.
Ridicule.
Restez avec nous, on va en reparler juste après. Monsieur le ministre, que ce soit en Guinée ou sur le continent, lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine, quelle réalisation concrète peut-on mettre à l'acquis du président Alpha Condé?
D'abord, je veux contester, c'est évident, hein, toutes ces accusations qui viennent d'être proférées à l'encontre de la gestion. Je crois que si ceci était vrai, la Guinée n'aurait pas gagné dans cet espace aussi court plus de 16 places à l'indice de perception de la corruption en améliorant sa place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je le conçois. On ne peut pas dire que tout est disparu en termes de corruption, de malversation, mais beaucoup d'efforts sont faits et la Guinée plus jamais ne reviendra à, comme en 2006 comme étant le pays le plus corrompu d'Afrique. C'est la même chose avec l'indice Mou Ibrahim de la bonne gouvernance. Donc, je crois que au-delà des procès d'intention, il y a des faits très simples, des indicateurs très simples qui indiquent les efforts qui sont faits pour moraliser la vie publique. Maintenant, sur les autres accusations, je laisse la responsabilité à ceux qui les profèrent. En termes de réalisation, je vous donne des exemples très simples. La première République avait laissé 300 unités industrielles en Guinée. La deuxième République, en 24 ans, n'en a construit que 13, après avoir dilapidé les 300 unités. En moins de 8 ans, on a mis 86 unités industrielles en place. Nous avons dépassé ce que la Guinée a jamais fait dans toute son histoire en termes de fourniture d'énergie avec la construction des barrages et ce qui est en train d'être construit. Mmh. En termes de fourniture et d'appui à l'agriculture. Donc, on pourrait citer des exemples à tout va. La question n'est pas là parce que ceux qui veulent le croire, le croiront, et ceux qui sont dans la contestation perpétuelle continueront à protester. Je crois que tout à l'heure, on vous a donné des indices et des indices macroéconomiques qui parlent d'eux-mêmes en termes d'inflation, en termes de croissance. C'est la preuve d'une bonne gouvernance, c'est la preuve qu'aujourd'hui, la Guinée est en train d'avancer. Je suis d'accord avec vous. Il faut faire des efforts pour que ces avancées macroéconomiques en termes de gouvernance ruissellent au niveau des populations. C'est le principal défi qui se pose à nous pour les années qui suivent. Et là, il y a un véritable défi pour lequel on a besoin de la contribution des uns et des autres, mais surtout de politiques volontaristes qui sont en train d'être mises en œuvre avec des projets majeurs pour les jeunes et les femmes, et notamment dans le secteur de l'agriculture. Notre politique est très simple. Se servir du tremplin et du levier que constituent les ressources minières pour alimenter tous les autres secteurs d'infrastructures qui contribuent au développement, que ce soit les barrages, les routes, les ponts et les établissements hospitaliers scolaires.
Merci. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Raissa Girondin en direct de la capitale américaine. Excellente suite de programme. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.